j'ai posée en introïte de cette émission. Pourquoi Kevin n'aurait pas pu s'appeler Joséphine ?
Alors, parce que la sociologie marque le choix des prénoms. Donc, on a travaillé avec un sociologue des prénoms qui s'appelle Baptiste Coulmont, qui a fait plusieurs recherches. Il a d'ailleurs écrit un petit livre qui s'appelle « Sociologie des prénoms », qui est passionnant, et dans lequel il explique que, en fonction de votre origine sociale, vous choisissez des prénoms différents pour vos enfants. C'est assez logique.
Et on va en parler dans un instant, car c'est évidemment relié à la question scolaire et de l'inégalité. D'abord, votre portrait à tous les deux, Monsieur Hout, Monsieur Piron, regardez, réalisé par Monsieur Legras.
Prof, le participe passé, Kevin, c'est la règle de trois d'Arnaud Hout et Jérôme Piron. Tous deux profs à l'Institut Don Bosco Voluf Saint-Pierre en Belgique, ils exercent pendant 15 ans. Arnaud Hout enseigne le français, Jérôme Piron la philosophie. En juin 2015, ils créent la compagnie de théâtre Chantal et Bernadette. Dès lors, ils écrivent et mettent en scène La Convivialité, un spectacle didactique et drôle inspiré par ce constat. Nos études de linguistique nous ont appris que la norme orthographique française est très souvent arbitraire et pleine d'absurdité.
Quand les enfants demandent pourquoi, on leur explique comment. Comment on écrit ou comment on accorde. Pourquoi est-ce que l'esprit critique s'arrête au seuil de l'orthographe ? C'est parce qu'on a tous appris à ne plus se demander pourquoi.
Dans la foulée, en 2017, il publie La faute de l'orthographe.
En français, on écrit bruit, édit ou crédit avec T pour pouvoir faire bruiter, éditer, créditer, mais pas abri.
En septembre 2018, leur tribune réclamant l'invariabilité du participe passé avec l'auxiliaire avoir paraît dans Libération. Le lendemain, le quotidien titre même La guerre que les Belges ont déclarée. La tribune s'appuie sur un avis de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Conseil international de la langue française. Entre autres arguments, Arnaud Hout et Jérôme Piron écrivent que, à l'école, le temps moyen consacré aux règles actuelles est de 80 heures et ils ajoutent « Il serait tellement plus riche de le consacrer à goûter la littérature ». Mais ils s'en prennent également à l'Académie française.
Ça n'a aucune valeur scientifique, c'est un titre honorifique, académicien, donc en fait... La principale activité de l'Académie française, c'est de choisir qui va rentrer à l'Académie française.
Aujourd'hui, avec leur nouveau spectacle Kevin, ils questionnent l'échec scolaire, le déterminisme social et les rapports de domination en classe.
Qu'est-ce qui empêche Kevin de se retrouver dans une bonne école ?
Légalement, rien. Mais bon, déjà, il y a la géographie.
C'est vrai qu'il était nul en géo ?
Non. La géographie, le quartier...
Au-delà du constat, il formule aussi quelques propositions, qu'il n'y ait plus des écoles de riches et des écoles de pauvres, mais aussi lutter contre les classes de niveau avec un tronc commun jusqu'à 15 ans.
Alors, Arnaud Hout et Jérôme Piron, Kevin donc, qui est présenté aux Têtes du Rond-Point à Paris et ensuite qui partira en tournée et qui partira aussi en Belgique, vous avez évoqué dans une interview récemment, c'est une pièce de gauche pour convaincre des gens de droite. Les convaincre de quoi ? À propos de l'enseignement et de l'école.
L'idée, c'est de discuter de la fonction de l'école. On peut avoir différents regards sur le but de l'école. D'ailleurs, l'école elle-même est en tension entre plusieurs buts. Par exemple, on essaie de former un maximum d'élèves et on doit aussi en sélectionner, puisqu'il y a des filières d'excellence, etc. Ces deux objectifs sont en tension. Et on aimerait un peu rééquilibrer, pas tout basculer dans un sens ou dans un autre, mais on trouve qu'un peu moins de compétition et un peu plus d'essayer d'aller tous ensemble vers un résultat pour l'ensemble de la population, ça serait quelque chose de profitable à la moyenne générale.
Et ça irait dans le sens de l'égalité des chances.
Absolument, parce qu'en fait, même si on était éventuellement favorable à cette compétition scolaire, c'est-à-dire que le meilleur gagne, qu'on ait l'égalité des chances, en fait, à aucun moment sur leur parcours scolaire, Kevin et Joséphine n'ont eu la même ligne de départ. Donc en fait, il y a vraiment une injustice, puisque les enfants arrivent avec des inégalités, et que plutôt... que de les résoudre avec à un moment donné du parcours scolaire, à 12 ans, à 15 ans, ça dépend des choix, avoir la même ligne de départ, égalité des résultats, à ce moment-là, on pourra avoir une véritable égalité des chances, ce qui n'est pas le cas malheureusement ni en France ni en Belgique.
Mais est-ce que vous n'avez pas une forme de vision élitiste tout de même ? Parce qu'on se dit, à vous entendre, que tout le monde doit arriver à Bac plus 4 ou réussir à l'école pour réussir dans la vie.
Non, la question c'est à quel moment on arrête de se battre pour que tout le monde ait la même chose ?
Oui, et puis surtout, qui y arrive ? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que des gens soient plus qualifiés pour être chirurgiens, d'autres pour être
artisans,
ébénistes, enfin, toutes sortes de métiers. Le problème, c'est que c'est toujours les mêmes qui se retrouvent dans les mêmes fonctions en fonction de leur origine sociale. Donc nous, s'il y avait un brassage social sur des activités différentes, ce serait tout à fait libre et tout à fait juste. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait, si vous êtes issu d'un milieu défavorisé ou issu d'immigration ou avec des difficultés financières, vous vous retrouvez pratiquement systématiquement dans l'enseignement professionnel et dans des filières qu'on ne voudrait pas de relégation, mais qui le sont malheureusement.
Pour en revenir à la sociologie et à l'égalité des chances, puisque la sociologie, les statistiques infusent Kevin, enfin le spectacle, il y a un tableau absolument incroyable, édifiant sur les mentions très bien au bac, ça c'était dans les années 20, et les pourcentages de mentions très bien au bac en fonction des prénoms. Et on voit que 34% de mentions très bien, enfin de Joséphine, ont la mention très bien, mais 5% de Ryan, 25% de Claire, 6% de Mehdi, ou encore 20% de Juliette et 6,8% de Kevin.
Oui,
tout est dit avec les statistiques.
Si les gens veulent s'amuser, encore une fois, ce sont les travaux de Baptiste Coulmont.
Ouais.
Et il a un site internet, vous tapez votre prénom, vous aurez le résultat de la moyenne des mentions au bac. Voilà.
Mais la question qu'on se pose quand même, c'est est-ce que la sociologie, oui, le déterminisme socio-économique, oui, bien sûr, mais est-ce qu'il peut arriver que Kevin... ou Adam ou d'autres ne soient pas nuls parce que ils ont envie d'être nuls, ils n'aiment pas l'école, ils n'ont pas envie d'apprendre, indépendamment des conditions socio-économiques.
Absolument, mais nous on s'est uniquement intéressé, et d'ailleurs c'est le cœur du spectacle, parce qu'on réexplique un peu ce qu'est la sociologie, on s'est intéressé aux moyennes statistiques, c'est-à-dire qu'il existe toujours des Kevin qui vont brillamment réussir dans la vie, qui vont entreprendre de belles études très longues avec des prépas. Mais en moyenne, si on prend la moyenne de tous les élèves issus de milieux défavorisés, eh bien, c'est ça qui intéresse les sociologues. Et c'est à ça qu'on s'est intéressé pour aussi montrer que la sociologie, ça pique, comme on le dit dans le spectacle, c'est-à-dire que c'est douloureux parce que on a l'impression que c'est une sorte de fatalité. Mais c'est surtout sur base des travaux de ces sociologues qu'on peut améliorer nos systèmes éducatifs.
Oui.
D'ailleurs, plein de pays autour de la France l'ont fait.
Et l'actualité en France, vous le savez, hein, c'est l'instauration des groupes de niveau au collège en 5e et en 6e pour le français et les maths. C'est-à-dire, on met les bons élèves avec les bons élèves, les mauvais élèves avec les mauvais, en espérant qu'ils progressent.
Oui.
Est-ce que vous êtes pour ou contre cela?
C'est pas... Alors, à titre personnel...
Oui, c'est ce que je vous demande.
Et d'anciens profs.
Et d'anciens profs, moi, je me prononce plutôt sur ce que j'ai lu sur ces choses-là. Et en général, les études démontrent que c'est une mauvaise idée.
C'est pas ce qu'a dit le gouvernement en français, c'est pour ça qu'il le fait. Alors, pourquoi ce serait une mauvaise idée?
Alors, il y a beaucoup de raisons, elles sont techniques et autres. Par exemple, il y a des choses comme ce qu'on appelle l'effet d'étiquetage. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes dans un mauvais groupe, vous avez l'étiquette mauvais groupe. Et on connaît l'influence de ces étiquettes. C'est même mesuré avec des études, avec des chiffres et des choses comme ça. Mais de manière beaucoup plus simple, si on réfléchit deux secondes au principe, si vous mettez tous les forts ensemble, l'effet du groupe va être très positif et ça va faire monter les élèves.
Mmh.
Ça, c'est vrai, on le sait, on le dit, et c'est tout à fait correct. Mais le corollaire de ça, c'est qu'il faut mettre tous les mauvais ensemble. Et ce qu'on dit moins, c'est que mettre tous les mauvais ensemble va tirer les résultats vers le bas et ils auront de moins bons résultats que si tu étais retrouvé dans un groupe moyen.
Quelle est l'expression ? Spirale macabre ? Non.
C'est
la constante macabre.
La constante macabre, oui, c'est ça. Est-ce que le salaire des profs, la sociologie, ça pique ? Le salaire des profs, ça pique aussi. Ils sont mal payés, pas assez payés en tout cas.
Alors tout est relatif, évidemment, par rapport à d'autres pays, ils sont moins bien payés. Moi, j'ai pas le statut égal exact de la rémunération.
Mais ça a une incidence sur menage, fatigue.
Je pense qu'il y a le salaire est un incitant comme les autres, et je pense que effectivement, des carrières où on pourrait éventuellement avoir accès, ne serait-ce qu'aussi à des possibilités de promotion, d'encouragement liés aux enseignants qui pratiquent énormément de pédagogie, qui ont des bons résultats. Parce qu'il y a une chose aussi qui est importante et qu'on ne dit pas, c'est que souvent les enseignants calculent leur rendement, leur résultat, au nombre de gens qui sortent avec des beaux diplômes ou avec des bonnes qualifications. Sauf qu'on calcule rarement le niveau des élèves quand ils arrivent dans leur classe. Et donc on dit les écoles prestigieuses ont de très bons résultats. Oui, mais ils ont aussi de très bons élèves à l'entrée. Et on sait que le rendement des enseignants dans les écoles techniques et professionnelles sont souvent parfois plus élevés que les écoles prestigieuses. Donc les écoles prestigieuses devraient aussi être appelées, selon moi, des écoles favorisées.
Alors, on va évoquer avec vous deux et avec Anna le salaire des profs en Allemagne. Très élevé, mais...
Oui, beaucoup plus élevé qu'en France. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, par exemple, un professeur débutant touche 2200 euros bruts par mois en début de carrière. Et à cela peuvent venir s'ajouter des primes. Mais en Allemagne, c'est presque trois fois plus, 6300 euros bruts pour un prof débutant. Mais vous allez le voir, les profs là-bas travaillent aussi beaucoup plus. 27 heures de présence par semaine contre 20 heures en France. Obligation d'enseigner deux matières, le français et la biologie, par exemple. Ils ont moins de vacances. seulement 4 semaines par an, et ils prennent leur retraite à 67 ans, mais surtout, ils participent énormément au temps extrascolaire, c'est-à-dire qu'ils surveillent les jeunes à la cantine et pendant la récré, ils les écoutent en cas de besoin comme un conseiller d'éducation, et ils passent même le balai dans les salles de classe. Jérôme Piron, vous qui avez été prof, est-ce que vous auriez été capable d'accepter tout ça pour un meilleur salaire, par exemple ?
Alors, moi, je travaillais dans une école de Don Bosco.
Qu'est-ce que c'est ?
Les écoles de Don Bosco, ce sont des écoles catholiques fondées par Don Bosco au XIXe siècle et qui ont une particularité, une pédagogie qu'on appelle salésienne et qui induit la présence sur le terrain. C'est-à-dire, moi je faisais mes gardes, j'étais dans la cour de récré, j'ouvrais la porte, je fermais la porte. Ça faisait partie de nos attributions parce que c'était dans
C'est pas le balai quand même.
Ouais, c'est pas le balai, non. Mais il y a une logique parce que ça crée de la proximité. Et comme cette pédagogie salésienne était basée sur une notion entre autres qui était la confiance, c'est pas quelque chose qui se crée seulement dans le rapport pédagogique, ça se crée aussi pendant les voyages scolaires, particulièrement dans ces moments qu'on échange. En fait, être au milieu de ses élèves, c'est quelque chose qui a des répercussions pédagogiques.
On enseigne mieux ?
On les connaît mieux, et donc on enseigne mieux.
Le maître mot, c'est la confiance, et quand on crée de la confiance avec les élèves, ça améliore la relation pédagogique.
Il y a un autre maître mot dans Kevin, c'est la collaboration.
Oui, tout à fait.
Et ça, ceux qui iront voir la pièce découvriront pourquoi et qui est doué d'esprit collaboratif. Ne le dites pas. Votre compagnie s'appelle Chantal et Bernadette.
Absolument.
C'est ironique.
Non, c'est ma maman et sa maman.
Ah, voilà. Très bien. Ah,
c'est nos mamans.
Très bien. Pas de sociologie autour de Chantal et Bernadette. Merci Arnaud Hout et merci Jérôme Piron. Alors, Kevin, au Théâtre du Rond-Point à Paris, jusqu'au 11 mai, et ensuite, spectacle en tournée.
Absolument, oui, en Belgique d'abord et puis probablement en France.
En France.
Absolument.
Oui, c'est ça. Merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes.
Merci
à vous. Merci beaucoup.